18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonsoir à toutes et à tous sur Radio U, on se retrouve dans notre quotidienne, c'est vous qui le dites. On reprend la semaine après un week-end festif car nous étions au festival Grand Bain vendredi et samedi soir. Et ce soir on vous propose en deuxième partie d'émission une présentation du festival Libido qui aura lieu du 20 février au 1er mars. Et tout de suite on vous propose d'écouter une interview réalisée en collaboration avec Aurélie de Radio Campus Clermont. Avec le réalisateur Antoine Tricot du podcast Penser le 9-3, un podcast autour du 9-3, de sa diversité, de ses contradictions. Accompagné de chercheurs et de chercheuses, nous nous baladons à travers la Seine-Saint-Denis afin de mieux la comprendre. On écoute.
Un podcast de Profession Banlieue et Making Waves.
Antoine Tricot, j'habite à Saint-Denis, dans la Seine-Saint-Denis, dans le 93, et je suis journaliste, auteur et aussi documentariste radio.
Est-ce que vous pouvez nous présenter le podcast Penser le 9-3 ?
Alors Penser le 9-3, c'est un podcast dont la première saison est sortie en janvier 2023, qui comme son nom l'indique est tourné en Seine-Saint-Denis, donc dans le département que j'aime à dire le plus connu de France probablement, mais aussi le plus caricaturé. Et l'idée, c'est dans chaque épisode d'emmener les auditeurs auditrices en promenade dans un quartier de la Seine-Saint-Denis en compagnie d'un chercheur ou d'une chercheuse et d'une personne qui est experte du territoire pour différentes raisons, soit parce qu'elle y habite, soit parce qu'elle y milite, soit parce qu'elle y travaille. Et ensemble, créer une conversation autour des thématiques des quartiers populaires. Donc ça parle bien sûr de la Seine-Saint-Denis, mais ça parle à tous les habitants de quartiers populaires ou toutes les personnes qui s'intéressent à ces questions en France. Une discussion à partir d'une thématique de recherche, que ce soit la santé, que ce soit la rénovation urbaine, les questions des mémoires d'immigration, de la ségrégation raciale, de l'éducation. Voilà, il y a 12 épisodes aujourd'hui en ligne et je vous invite à l'écouter.
Ça change quelque chose dans ta perception de l'espace. T'es, tu rentres dans un jardin et c'est, je sais pas, il y a, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a maintenant que le jardin est, donc ça fait 7 ans, c'est la 7e saison, donc il commence à y avoir des choses qui nous dépassent en tant qu'être humain. Enfin voilà, il y a des choses qui sont des arbres qui commencent à grandir, des beaux arbustes, etc.
Mais le fait qu'il y ait du bruit dans ce jardin, c'est pas du tout anodin en fait, parce que aujourd'hui, les espaces qui sont pas encore artificialisés, et que les acteurs de la ville laissent au jardinage, c'est ce qu'on peut appeler les ruines du capitalisme urbain, c'est-à-dire les espaces qui sont dévalués et du coup auxquels on laisse, voilà, certains collectifs, certaines associations les utiliser. Mais donc c'est souvent des espaces bruyants qui peuvent être pollués, où les sols sont pas forcément des sols cultivables. Et donc ça, c'est pas anodin, ça montre que dans la ville, il y a une hiérarchie des usages et que l'agriculture urbaine, ça reste souvent un usage subsidiaire qui est considéré un peu comme le parent pauvre de l'urbanisation.
Dans quel cadre est produit le podcast ?
Alors, en fait, c'est une commande de Profession Banlieue, qui est un centre de ressources sur tout ce qui est politique de la ville, c'est-à-dire les politiques spécifiques sur les quartiers populaires, dans la Seine-Saint-Denis. En fait, eux, c'est une association qui a pour but de diffuser tout ce qui est savoir autour de ces politiques particulières aux gens qui sont élus ou fonctionnaires ou militants associatifs en Seine-Saint-Denis. Et à un moment donné, ils travaillent beaucoup sur le texte, sur des brochures en ligne, etc. Et ils se sont dit, pour toucher plus de gens, on peut peut-être penser à un projet audio. Donc, ils ont fait une commande à Making Waves, qui est un studio de podcast qui est aussi en Seine-Saint-Denis, qui est venu me chercher pour penser ensemble un projet de podcast autour de la recherche donc académique des universités sur la Seine-Saint-Denis. Et l'idée a été donc de créer ces conversations, ces promenades conversations, pour essayer de créer un contenu accessible à tous sur ces questions des quartiers populaires.
Dans vos podcasts, durant les discussions avec les chercheurs, les chercheuses et les habitants, on entend tout l'environnement autour des personnes, les travaux, les oiseaux, les passants. En quoi c'est quelque chose qui vous semblait important d'incorporer dans le podcast ?
En fait, c'est super important. Je dirais même que le paysage de la Seine-Saint-Denis est la base de chaque épisode. L'idée, c'est de 1 emmener les gens dans les quartiers populaires en disant, bah, regardez, en fait, c'est pas ce que vous croyez. Il y a des oiseaux, il y a beaucoup de sons tranquilles, il y a des jardins potagers où on entend des gens faire du jardinage. Alors certes, il y a des voitures, etc., puisqu'on est en ville, il y a des avions qui passent, mais il y a aussi énormément de choses auxquelles on s'attend pas. Et le fait de se promener dans ces quartiers populaires, ça change déjà, ne serait-ce que par l'oreille, les stéréotypes qu'on a sur ces endroits qu'on imagine dans des états pas possibles, avec des gens qui crient tout le temps ou je ne sais pas quoi, en tout cas des images qu'on a à la télévision, puisque les quartiers populaires sont traités la plupart du temps par les médias seulement quand il se passe des choses graves. Et du coup, on a cette image des quartiers populaires en feu, ce qui n'est pas le cas au quotidien, même très rarement, et pas plus que d'autres endroits potentiellement, mais c'est des endroits plutôt agréables en plus. Il y a souvent beaucoup d'espaces verts en bas des grands ensembles et dans lesquels on peut se promener tout à fait tranquillement.
Justement, comme vous dites, le 9-3, c'est un département sur qui on porte beaucoup de préjugés. Comment on déconstruit justement ces préjugés ?
Bah d'abord par cette promenade, comme je le dis souvent, effectivement, le fait de marcher dans ce que beaucoup ont appelé des no-go zones en anglais, dans des endroits où on ne pourrait pas marcher, ça déconstruit un premier stéréotype qui est que les quartiers populaires, c'est des endroits dangereux. Alors certes, il y a des choses dangereuses qui se passent dans les quartiers populaires, mais c'est pas le cas de tous les quartiers populaires et c'est surtout pas le cas de la majeure partie du temps dans les quartiers populaires. Il y a plein de gens qui vivent au quotidien à qui il n'arrive rien. Et après, pour moi, l'important pour déconstruire les représentations qu'on a des quartiers populaires, c'est de construire du savoir commun sur ces quartiers populaires. C'est des endroits de vie dans lesquels les gens ont des problèmes qui sont liés à des choses très banales.
Parce qu'on est tellement en lien, quand on a vu que l'obésité posait un problème, mm-hmm. nous avions demandé à l'époque à la mairie est-ce qu'ils peuvent nous aider pour mettre à disposition deux nutritionnistes,
oui.
deux diététiciennes qui sont venues. Nous avions fait 5 ateliers.
D'accord.
Mais ça a été vraiment bénéfique.
Bah oui, parce
très
que...
bénéfique parce qu'on a fait les ateliers santé. Et de ces ateliers santé, nous avions appris à boire.
Ouais.
Est-ce qu'il faut toujours acheter de l'eau? De là, on est passé par tout ce qui est consommation, que ce soit sucre ou autre. Et pour le dernier atelier, nous avons fait venir un psychologue. Pour parler des addictions. Un médecin est venu aussi, plus une infirmière. Donc c'était vraiment des moments très intenses. Et après ça, on a pu orienter certaines mamans vers des ateliers de prévention pour la diabète.
Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que l'association, elle travaille vraiment par le bas, j'allais dire, à faire comprendre ces problématiques, là où les campagnes par le haut. Enfin, je veux dire, on entend à la radio 5 fruits et légumes par jour, on n'entend pas. Comment pouvez-vous vous payer 5 fruits et légumes par jour ?
Exactement.
Et donc vous posez cette question-là. Et cette question-là, elle est essentielle.
On la pose, on en parle, surtout aujourd'hui avec l'inflation. Elles ne s'arrêtent pas de le dire. Elles disent que là, on ne peut même plus acheter des légumes tellement tout est cher.
Ben voilà l'hôpital.
Donc c'est à deux pas.
On est beau, hein?
Ah ouais.
Les thématiques abordées dans chaque épisode sont des questionnements larges aussi dans leur temporalité, puisqu'elles sont là depuis longtemps et sûrement encore pendant quelques années. Pourquoi ce choix d'aborder des sujets qui ne se fichent pas dans le temps?
Alors c'est l'idée de créer vraiment une ressource documentaire qui va pouvoir être utilisée dans le temps. En fait, vu que on est un peu dans une démarche d'éducation populaire, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens, soit qui habitent les quartiers populaires, soit qui travaillent, soit qui sont élus de ces quartiers, donc qui font la politique autour de ces quartiers, ou des gens qui n'y connaissent rien, apprennent des choses, pour moi c'était très important qu'ils puissent les écouter dans 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 10 ans, en se disant « Ah oui, ça me fait comprendre des choses sur les quartiers populaires. » En plus, pour moi, on est en train de documenter une époque qui est très peu documentée, c'est-à-dire, voilà, la Seine-Saint-Denis du début des années 2020, c'est celle-là. Et peut-être, dans 50 ans, la radio reprendra ce qui s'est dit dans ces conversations en disant « Ben voilà, ça donne un document historique qui est assez rare sur cet état de fait. » Et pour moi, la troisième chose, c'est se dire « Les quartiers populaires sont souvent traités dans une actualité. » On y va en tant que journaliste une demi-journée pour parler d'un événement très précis sur lequel en plus on a souvent une idée préconçue et du coup on reste dans quelque chose qui donne l'impression que les problèmes qui s'y jouent, que ce soit des problèmes de violence ou de drogue ou de racisme etc. ou de violence policière sont englobé dans un présent. On ne sait pas d'où ça vient. Ça tombe du plafond, ça tombe du ciel. Hein, voilà. Alors que c'est des choses qui ont été construites politiquement depuis des années. Et du coup, il faut en raconter l'histoire pour remettre ces quartiers populaires dans une histoire longue. Et pour moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de relier l'histoire de ces quartiers populaires d'aujourd'hui à une histoire ouvrière qui date depuis très longtemps et qu'on a quasiment tous oublié en se disant que non, ces quartiers populaires, en fait, ils viennent de nulle part.
Justement, vous parlez de projet documentaire, mais pour vous, où se trouve un peu la limite entre une production documentaire et une production journalistique ?
Pour moi, le documentaire est journalistique. En fait, le journalisme est très très varié. Il y a plein de formes différentes au journalisme. Que ça peut être une brève dans un journal, ça peut être un reportage dans un journal télé, ça peut être une émission longue de débat sur un sujet d'actualité, et ça peut être un livre de littérature de non-fiction ou un documentaire long à la radio. Ce qui est important, c'est de prendre en compte cette diversité d'approches, et c'est surtout les formats longs que permettent le documentaire, qui sont souvent des formats peut-être de 1 heure à la radio, ou même 30 minutes à la radio, ou 1 heure et demie au cinéma, ou bien des livres de 350 pages, permettent de traiter en profondeur des sujets qui sont trop souvent traités de manière trop rapide quand on a des petits formats. Et pour moi, le travail qui est fait dans le documentaire, qui est de documenter le réel, permet aussi de travailler pour un journalisme qui est moins figé dans le temps présent et qui prend en compte les structures longues de l'histoire qui sont importantes à raconter.
C'était Chanel Beads avec Embarrassed Dogs sur Radio U. Et vous écoutez toujours, c'est vous qui le dites. On continue notre émission en accueillant trois membres de l'association Libido, Émilie, Pidou et Jonathan. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc c'est la Ligue d'improvisation de Brest et de l'île de Ouessant qui vont, et on va discuter avec vous de la 22e édition du festival de l'association qui se déroulera du 20 février au 1er mars à Brest. Le premier spectacle aura lieu aux Enracinés. Donc Libido, c'est une association créée en 97 et en faisant quelques pièces dans les salles de Brest, notamment au Vauban. Mais dans les années 2000, l'association, elle s'est étendue et elle a donné naissance au fameux festival d'impro de Libido. Les bénévoles et les joueurs ont un point commun à chaque rencontre, découvrir un nouveau talent via des ateliers d'improvisation hebdomadaires. Aujourd'hui, Libido présente une quarantaine de spectacles par an, notamment à Brest et ses environs. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter à cette présentation ? Est-ce qu'elle est assez complète ?
Bon, elle est plutôt complète. C'est vrai que l'association, le festival de l'association, c'est un événement annuel très attendu par les membres de l'association qui sont non seulement joueurs mais bénévoles. Et du coup, c'est un bel événement, une belle vitrine pour l'association chaque année.
Et pendant ce festival, en fait, c'est aussi l'occasion de tester des nouveaux concepts parce que d'habitude, on est surtout sur des cabarets. donc dans les différents bars, notamment aux Enracinés, au Grabuge et au Béage. Et une fois tous les trimestres à peu près, on fait des matchs où on invite des équipes invitées, des équipes qui viennent cette année de Bretagne, mais d'habitude de la France entière. Donc là, on essaie d'explorer d'autres choses. Donc c'est l'occasion pour certains des membres de proposer des concepts. Pas forcément des personnes qui ont déjà fait des concepts avant, donc ça permet de, voilà, de, d'explorer différentes choses sur des concepts où le but c'est de faire rire, mais pas que. Parfois c'est aussi l'occasion d'explorer d'autres, d'autres émotions. Donc c'est aussi pour ça que, qu'on aime bien ce festival-là, parce que ça nous permet vraiment de se retrouver entre membres et de tester des choses devant le public sur des salles qu'on n'a pas non plus l'habitude d'expérimenter.
Donc vous parliez de cabaret, ça consiste en quoi les cabarets d'impro?
Les cabarets, c'est quelque chose d'assez classique dans l'improvisation. On va avoir donc un certain nombre de joueurs, de joueuses, généralement 4 ou 5, 5 pour la plupart du temps, personnes à qui on va donner un thème ou plusieurs thèmes et quelques catégories, c'est-à-dire des contraintes ou des choses, et qui vont devoir créer une histoire dans un temps donné. Donc c'est plusieurs petites histoires qui s'enchaînent comme ça sur le temps d'un spectacle.
Comment le festival d'impro libido a commencé? C'est quoi son histoire?
Alors, alors là, il faut remonter à un peu plus loin. C'est vrai que la libido jouait avant beaucoup sous la salle de la mairie lors de matchs avec des équipes justement de la France entière. Et l'idée, c'était de varier, de proposer des nouveaux formats. Et alors, c'est un historique qui remonte à un peu plus loin de lorsque moi-même j'ai intégré l'association, donc j'ai pas tout l'historique en tête, mais c'est né de cette volonté de donner une vitrine aussi à la libido, autre que sous la mairie. Mmh. Mais voilà,
je sais pas. Surtout qu'historiquement, en fait, le concept phare en fait de la libido, c'est les matchs. Donc, c'est vraiment essayer de, voilà, de pouvoir proposer d'autres choses. Et du coup, de fil en aiguille, ça a donné plein de scènes, de spectacles dans des lieux différents. Donc, c'était essayer d'aller au-delà du match.
Donc aujourd'hui, je vous écoute.
Ah non, du tout.
Aujourd'hui, l'association comporte combien de membres à peu près?
On est à 75 adhérents. Donc des gens qui sont de Brest, mais pas que. Il y a des gens qui adhèrent plus à titre symbolique, mais qui viennent pas forcément pendant les entraînements ou les spectacles parce qu'ils habitent pas ici, tout simplement. On a un membre qui a été pendant longtemps à Brest, qui a été président de la Libido et maintenant qui habite à Nantes. Donc du coup, qui est dans une autre troupe d'impro, mais qui continue à payer sa cotisation. On a un membre qui était dans la section ado de la libido, donc la libado, et qui là fait ses études à Versailles, il me semble, et qui du coup n'est jamais là non plus, mais qui symboliquement continue à payer sa cotisation. Donc il y a des gens plus ou moins présents, mais en tout cas, dans les membres qui sont à jour leur cotisation, on a 75 membres.
Vous avez, ça change en façon des tranches d'âge, c'est ça? Il y a plusieurs. Là, vous parlez de libado.
Alors, en fait, on a juste une section ado qui va de 13 à 17 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et après, au niveau des membres au sein de la libido, ça va vraiment de 20 à. Alors, je ne vais pas dire la personne la plus âgée, mais je pense qu'elle doit être aux alentours de 55-60 ans. Donc, vraiment, on a vraiment tous les âges et c'est ça qui est assez chouette. Je pense que la moyenne, elle doit être autour des 30 ans, 35 ans. Donc on a vraiment tous les âges et on est quasiment à 50-50 au niveau des genres aussi, donc voilà, on est très très hétérogène.
En ce qui concerne le festival et sa programmation, elle sera faite de quoi? Comment est-ce qu'elle est organisée?
Alors en fait, on a 7 dates prévues lors du festival dans 7 lieux différents. Donc on a le format habituel de cabaret qu'on va jouer aux Enracinés, au Grabuge. On a le format match qu'on va jouer avec 3 équipes qui viennent de Rennes, Lorient et Saint-Brieuc. Donc ça, c'est la dernière date. Et on a de nouveaux concepts dans de nouveaux lieux, notamment un en particulier, puisqu'on va jouer à la piscine Foch lors d'une soirée autour du thème Odyssée improvisée. Et donc aussi dans la rue Saint-Malo, au coin de la rue, on va jouer à un concept plus intimiste autour du feu. Et donc voilà, donc 7 lieux, 7 concepts, Il y a d'autres concepts également dont on n'a pas parlé.
On a historiquement, on a toujours le cabaret des nouveaux. Donc c'est soit la première, soit la deuxième date. Cette année, c'est la deuxième date du festival, la première étant aux Enracinés. Cette date-là, c'est surtout la possibilité aux nouveaux arrivants de pouvoir se lancer sur scène dans un contexte qui est plutôt... C'est une date qu'on aime bien... qu'on aime bien dire qu'elle est assez cocooning parce que c'est devant souvent des amis, des proches, de la famille. Donc ça permet vraiment de se lancer de manière rassurante. On aime bien dire que c'est pour nous la meilleure date du festival parce que c'est vraiment le moment où on découvre aussi des personnes avec qui on n'a pas forcément eu l'habitude de jouer parce que souvent ils s'entraînent ensemble avant le jour J. Et du coup, on découvre un peu des talents et des gens qui s'éclatent entre eux. Donc, c'est toujours hyper, hyper chouette à observer, en tout cas.
Vous parlez de nouveaux concepts qui commencent un petit peu à chaque festival et qui sont programmés. Comment, justement, on repousse un peu les limites de l'impro et qu'on teste un peu, essayer de voir ça peut marcher, ça va pas fonctionner. C'est quoi un petit peu le fonctionnement de ça?
C'est des choses... qui nous sont proposés par n'importe quel adhérent de l'association qui a une idée et qui est testé en entraînement. Donc on s'entraîne toujours le lundi soir. Donc sur plusieurs lundis, on va s'entraîner, voir ce qui marche, ce qui marche pas, améliorer les choses. Et au fur et à mesure, quand on sent que c'est prêt, on peut lancer le spectacle.
On aime bien partir aussi de choses qui nous inspirent, soit c'est ce qui nous fait rire. Parfois, on va voir d'autres concepts d'impro, d'autres troupes dans d'autres villes. Et on se dit, ça c'est chouette, donc comment nous on peut le mettre à notre sauce? Parce que le but, c'est pas de faire du plagiat, en fait, c'est aussi de s'inspirer de ce qui existe déjà, ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne moins, mais qu'on pourrait améliorer. Et l'idée, c'est de s'essayer à des choses qui nous plaisent, qui nous font triper entre nous. Parce que ce qu'on fait aussi en entraînement, parfois, on se dit, si on le déroulait sur un lieu spécifique, dans un endroit qui change, ça pourrait vraiment être chouette. Typiquement, le concept à la piscine, c'est ce qu'on appelle le voyage du héros. Donc c'est l'idée de ce qu'on croise dans plein de sagas de films, de séries. Typiquement, c'est l'arc narratif de Star Wars, c'est un héros parti de rien à qui il arrive des péripéties. Et l'idée, c'est essayer de le dérouler dans un lieu spécifique, avec des codes spécifiques parfois. Donc là, typiquement, dans une piscine, ça va être une odyssée improvisée. Donc c'est avec les codes qu'on dit péplum, donc un peu avec un cœur... quelque chose un peu à la manière d'Hercule, donc avec un cœur qui va appuyer les aventures, la musique qui est aussi très importante, des personnages qui sont très pas codifiés, mais en tout cas avec des éléments qui rappellent l'Odyssée ou ce type de récit. Donc on se base souvent de ce qui existe déjà, que ce soit par la culture populaire au sens très large, ou le théâtre ou différents en fait médiums qui nous parlent. Et c'est par exemple les Enracinés, ça va être un JT improvisé, donc on s'inspire vraiment de ce qui nous fait marrer, de ce qui nous inspire, de ce qui nous plaît, et on essaie de le dérouler.
Pour reprendre un peu la question là de comment on ose franchir certaines barrières avec certains nouveaux concepts, je trouve que le cas de la piscine Foch était intéressant, puisqu'en fait le premier point de départ d'un nouveau concept, c'est effectivement, c'est ce que Pidou disait, c'est ça part des adhérents. Donc il faut les mettre suffisamment de confiance pour dire, osez présenter un concept, osez dire ce qui vous passe dans la tête. Et après, c'était aussi oser contacter le lieu. Parce qu'en fait, c'est cette barrière qu'une adhérente, Fabi, a franchie en appelant tout simplement et en osant, en se disant, ça coûte rien d'essayer. Mm-hmm. Et effectivement, l'interlocuteur de la piscine de Foch a été très réceptif à cette demande et a dit, a donné son feu vert assez rapidement. Et c'est vrai que ça, c'est chouette, puisqu'en fait, on est arrivé à ça va être un super concept d'Odyssée improvisée grâce à, finalement, des petits pas qu'on a franchis en osant, en fait. Et c'est un peu aussi la recette du festival, c'est d'oser à chaque fois proposer des choses et des fois ça donne des nouveaux lieux, des nouveaux concepts, des nouvelles personnes dans les spectacles.
Donc là le spectacle sera joué directement dans la piscine.
Oui, alors dans le petit bassin, pour des raisons de sécurité, de facilité de jeu. Donc ce sera dans le petit bassin. Et
qui a été re-rempli. C'est-à-dire que là, il y a eu le grand bain, mais du coup, on va jouer avec de l'eau dedans.
On va rester avec vous, Émilie, Pitou et Jonathan, mais on va faire une petite pause musicale avant de continuer.
You see me living on my sweetest dreams. Yeah. I say take it up with the man on the moon, but that will be me. Yeah. Sleeping on cloud number nine. All of my friends by my side. Nothing to hide, nothing to lose. I'm on the loose. Betching my bottom and top dollar. Second you get it, you love it here too. This is a coveted level, both heroes and fools. Zero and rules, zeros and jewels. We're just all liberty drunk. Stupid and young, but we always pull through. Like, ooh. Mama tell me don't forget your manners. But truth be told, nothing. We don't really think about the after. We just run like hell till we're cadavers. Live moment to moment, paycheck to paycheck. We're the
C'était Nikki avec Nightcrawler sur Radio U et nous sommes toujours dans C'est vous qui le dites avec Émilie, Pidou et Jonathan, membres de l'association Libido, la ligue d'improvisation de Brest et de l'île des Ouessants, qui nous présente le festival Libido qui aura lieu du fin février au 1er mars à Brest. Est-ce que donc les événements, les improvisations qui auront lieu, ça sera sur le principe de le public donne un thème et ensuite il est pris par les joueurs?
Alors pas forcément. Ce qu'on appelle la petit meurtre, donc ça c'est petit meurtre et fait divers, donc ça c'est au grabuge, c'est ça. Là l'idée ça va être va y avoir un meurtre ou autre chose d'ailleurs, un événement, un fait divers, et l'idée ça va être de faire participer le public pour trouver le coupable. Mais aussi, il y aura un enquêteur qui va finalement avoir le même rôle que le public. L'idée, ça va être de trouver la personne coupable parmi les joueurs. Et en fait, il y aura deux équipes Il y aura une première partie de 45 minutes et une autre partie de 45 minutes, je crois que c'est ça. Sur le même principe, voilà, avec enquêteurs, des suspects potentiels, un coupable et des improvisations. Donc, le public est souvent mis à contribution, mais pas forcément pour proposer un thème. Ça peut être le cas. Sur les cabarets, c'est souvent le cas. Là, un petit peu moins, parce que les concepts s'y prêtent pas forcément. Pareil pour le quadriptique. Le tétraptique. Faut que je le dise bien, sinon je vais me faire gronder. C'est le tétraptique. Donc ça, c'est le vendredi. Donc on invite des équipes, comme l'a dit Jonathan, pour le tournoi de match. Et aussi le vendredi, sur un concept, donc le tétraptique. Et là, l'idée, c'est... donc ça va être quatre équipes, d'où le nom tétra. Et ces équipes-là vont... on se mélange. Il y aura un libido, un pierre, un colibri et un free pool. Et chaque équipe aura 20 minutes pour jouer une histoire. Sauf que chaque équipe pourra interrompre quand il veut l'histoire pour qu'une autre équipe puisse se lancer. Donc c'est-à-dire que l'équipe peut jouer pendant 2 minutes, couper son impro, et une autre arrive, et après repartir, revenir pendant 5 minutes, et ensuite recouper. Mais le tout, c'est que l'histoire dure 20 minutes. Donc là, pareil, le public n'est pas forcément sollicité, mais ça crée quand même une histoire, et ça crée quand même une dynamique, parce que on a quand même besoin du public.
Justement, en parlant du public, est-ce que vous avez un public qui est assez fidèle, qui revient un petit peu des têtes que vous revoyez un petit peu à chaque spectacle ?
Oui, je dirais que aux Enracinés notamment, où chaque premier jeudi du mois plutôt, on a maintenant ce rendez-vous mensuel qui est acté depuis l'année dernière, et c'est vrai que les gens qui fréquentent les Enracinés et puis qui nous connaissent viennent régulièrement. Justement, petit à petit, les uns ramènent des amis, les autres ramènent de la famille, puis finalement le cercle des fidèles de la libido s'agrandit chaque année, on en est ravis. Et de même pour les matchs, c'est un format en fait qui est connu et qui est fortement associé à la libido. C'est ce que Émilie disait, historiquement, la libido organise des matchs depuis très longtemps dans la région brestoise. Et c'est un format qui est connu, reconnu par le public, et c'est souvent un public fidèle, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, chacun... on a toujours des nouvelles personnes quand même qui découvrent l'improvisation et qui sont à la fois spectateurs et un peu acteurs quand on leur demande effectivement de donner des sujets ou des thématiques.
Et c'est même assez commun que des anciens du public nous envoient un message au cours de l'année pour dire j'aimerais bien rejoindre la libido parce que j'assistais à vos cabarets, à vos matchs, à vos concepts, et ça m'a donné vachement envie. Donc très souvent, les gens qui sont dans le public, ça leur donne envie de rejoindre la libido. Donc on va pas dire que c'est en circuit fermé, mais en tout cas c'est souvent des habitués qui sont attirés par ces spectacles-là. La libido, mais pas que, on a quand même une grande offre finalement d'impro à Brest, donc ça permet vraiment de créer une dynamique de gens qui apprécient, qui sont friands d'improvisation.
Et c'est vrai que le festival, on propose en 7 dates dans 7 lieux différents et des nouveaux concepts, ça nous permet aussi d'attirer un nouveau public et qui après s'inscrit aussi sur nos réseaux sociaux et qui nous suit sur Instagram essentiellement via une newsletter qu'on envoie. Donc on entretient aussi la communication auprès d'un réseau on compte aujourd'hui pas mal d'adhérents, d'abonnés plutôt, ouais. À Instagram, je sais plus combien on a, mais
on a plusieurs milliers, je pense,
ouais. De mémoire. Via Instagram, c'est vrai que on communique pas mal et on touche un plus large public que d'habitude, quoi.
Et puis même au niveau des lieux, on fait Brest, mais pas que. L'an dernier, par exemple, on allait à Rostronen, dans un bar associatif qui vient d'ouvrir. Donc on essaie aussi de tester d'autres lieux. On va quand même assez souvent au Relec. Relec et Rion, j'ai plus la salle, c'est Jacolo. Donc on essaie aussi d'autres lieux. On teste, on se fait inviter parfois. On était à La Fabrique aussi, à l'Esnevin. Donc on essaie des lieux différents, on fait pas que du Brest. On avait joué à Ouessant il y a 2 ans aussi, pour avoir quand même le Ido qui de temps en temps qu'on utilise aussi de temps en temps. Donc on essaie d'autres lieux, on essaie de de proposer à d'autres publics différents qui peuvent pas forcément se déplacer en centre-ville de Brest. Donc ouais, on essaie d'élargir aussi comme ça.
On parlait tout à l'heure du fait que pour certains spectacles, donc c'est le public qui propose des thèmes. Est-ce qu'il y a des limites justement à ces thèmes qui sont abordés en improvisation?
La bienséance avant tout. On a toujours le maître ou maîtresse de cérémonie qui va demander au public les thèmes, etc. et qui gère à peu près aussi ce que ça va contenir, les différents thèmes proposés, et qui va un peu réguler aussi ce qui est proposé, prendre ce qui plaît, ce qui peut faire une histoire cohérente. Donc c'est régulé comme ça par quelqu'un qui va gérer aussi ce qui est proposé.
Est-ce que donc pour l'avenir du festival, il y aurait peut-être une pensée d'élargir le périmètre du festival et peut-être encore plus loin en Bretagne, voire peut-être en France un petit peu plus loin?
Bah pour élargir, en tout cas, ça resterait sur le Finistère déjà, peut-être même plutôt le Nord Finistère et encore si on se fait inviter, pourquoi pas, mais on resterait quand même sur le périmètre de Brest et des villes alentours. On va peut-être pas s'exporter au-delà parce que l'idée c'est aussi de faire du local et de proposer au public de Brest et des alentours des concepts, des spectacles. Sachant qu'il y a déjà d'autres troupes à d'autres endroits qui proposent d'autres choses, donc sauf si on se fait inviter, et ce serait pas dans le cadre du festival, on reste quand même sur du local.
En ce qui nous a les infos pratiques pour les spectacles, est-ce qu'il y a des tarifs pour chaque événement?
Alors, pour les tarifs, il y a une seule date qui est entièrement gratuite, c'est le Cabaret des Nouveaux. Ce sont des proches qui viennent, l'idée c'est de ne pas leur en plus demander de payer parce que ça se veut très convivial. Ensuite, pour les dates au Grabuge et aux Enracinés, ce sera une entrée libre mais avec un chapeau à la sortie. Donc les gens donnent ou ne donnent pas, c'est vraiment libre à eux. Ensuite, pour tout ce qui va être piscine Foch, tétraptique à Bellevue et tournoi de match, ça va être 6€ en prévente et 8€ sur place. Sachant que pour la piscine Foch, on est déjà complet en ligne. Je crois, si je ne me trompe pas, il y aura peut-être pas de place sur place. Faut que je vois, mais.
Oui, en fait, on doit faire un point sur Hello Asso.
Ouais.
On a mis un certain nombre de places en ligne. Et c'est vrai que certaines dates, comme l'Odyssée, en fait, est plutôt victime de son succès. Et c'est plutôt bien. Et maintenant, à voir si, en termes de jauge, on peut encore élargir un petit peu. Mais on a une jauge liée à de la sécurité. Et on ne peut pas étendre. Mais on est content que ce soit complet. Et en même temps, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc c'est toujours un peu décevant de ce côté-là, mais en tout cas, preuve que les nouveaux concepts en fait attirent, et ça c'est plutôt positif.
Pour l'instant, en tout cas, du coup, c'est complet, mais c'est une info qu'on peut mettre sur nos réseaux,
oui.
Si jamais il y a de la place. Quoi.
Et oui. J'ai oublié deux dates, je crois, j'ai oublié la Petite Meurtre au Grabuge, donc là, ce sera aussi entrée au chapeau, sortie au chapeau, et le concept au coin du feu, donc le dimanche, au coin de la rue, donc à Recouvrance. Là, pareil, ce sera aussi sorti au chapeau. Donc les gens donnent ou ne donnent pas. C'est dans la limite de leurs moyens, de leurs envies, de nous soutenir ou pas. Voilà.
Donc en fait, concrètement, trois dates sont vraiment avec des entrées payantes pour lesquelles il faut réserver. Et on préfère en fait conseiller aux gens de prendre les places en ligne. Puisqu'en fait, au moins, ils ont l'assurance de pouvoir avoir une place en avance. Donc, c'est l'Odyssée improvisée, qui pour l'instant est complète sur Hello Asso. Et puis, on a Tétraptique et les matchs, en fait. Donc, ce sont les dates du 28 février et du 1er mars qui sont encore ouvertes sur Hello Asso.
On a des places aussi sur place pour le tournoi de match uniquement. Là, c'est à Escalibule.
Oui, Escalibule.
Et non, c'est Escalamanga. Escalamanga.
Oui, Escalamanga.
Je confonds les deux. Et aux Enracinés.
Donc, là, il y a des préventes papier qui sont disponibles donc pour la date du 1er mars.
C'est ça.
Merci beaucoup Émilie Pidou et Jonathan de nous avoir présenté le festival Libido qui aura lieu du 20 février au 1er mars, on rappelle. Et toutes les infos sont trouvables sur votre Instagram et sur votre Facebook aussi, il me semble.
Oui. Et sur le site internet aussi.
Et sur le site internet. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Merci. Et nous on se dit au revoir, mais on se retrouve demain, même heure sur Radio U. Bonne soirée à toutes et à tous.